RFI. Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport, plus que jamais au cœur de la Coupe du Monde avec tous nos envoyés spéciaux en Russie. Grand point d'étape alors que toutes les sélections ont disputé ce soir leurs deux premiers matchs de groupe et que six d'entre elles ont déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Le Sénégal, tenu en échec cet après-midi de partout par le Japon, lui n'est pas plus avancé sur son avenir. Il le jouera quitte au double contre une Colombie très efficace face à la Pologne. On rejoindra Olivier Pron dans un instant à Ekaterinbourg. L'Angleterre éjecte définitivement la Tunisie de ce mondial en écrasant le Panama et embarque avec elle la Belgique. Triste bilan pour les équipes nord-africaines jusqu'à présent. Tout est perdu, sauf peut-être l'honneur. Le Maroc face à l'Espagne et l'Égypte face à l'Arabie Saoudite vont tirer leur révérence demain en espérant le faire la tête haute. Christophe Jousset et Frédéric Suitou nous en parleront. Et pendant ce temps, les Bleus se préparent, eux, tout doucement, à affronter le Danemark pour finir cette phase, si possible avec la première place. Aujourd'hui, un joueur est sorti d'une longue diète médiatique. Paul Pogba, une conférence de presse du milieu de terrain tricolore. C'est tellement rare que ça se raconte dans le détail et c'est ce que nous fera Antoine Grenier. Enfin, lui aussi rêve de titre mondial, mais ça n'est pas pour tout de suite. Tony Yoka poursuit son apprentissage du monde de la boxe professionnelle. Cinquième combat, cinquième victoire hier à Paris contre le Britannique Dave Allen. Jean-Clément Martin Borella était au bord du ring. De tous les groupes de cette Coupe du Monde de football, c'est avec le B, celui de l'Espagne et du Portugal, qui est le plus serré pour le moment. Ce groupe H, où seule la Pologne est désormais hors jeu. Deux nations se tiennent au coude à coude, et pour le coup, ça n'est pas vraiment une expression galvaudée. Le Japon et le Sénégal, adversaires du jour à Ekaterinbourg, sortis de la pelouse sur un 2-2 qui n'arrange ni l'un ni l'autre. En direct d'Ekaterinbourg, Olivier Pron. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Les Lions de la Teranga ont pris un point, certes, mais il y a quand même de quoi avoir des regrets vu le scénario et l'évolution du score.
Et oui, il y a de la frustration bien sûr, le Sénégal pourtant moins performant, nettement moins performant que mardi face à la Pologne lorsqu'il s'était imposé 2-0 en ouverture. Le Sénégal a mené deux fois au score. Sadio Mané, opportuniste et bien placé à la 11e minute, ouvre le score. C'est une frappe de Youssouf Sabali qui est vers Kawashima, le gardien du FC Metz et de la sélection japonaise, repousse des deux points. On se demande pourquoi, parce qu'il repousse des deux points directement sur l'attaquant de Liverpool qui marque du genou à bout portant sans même contrôler le ballon. Elle ricoche véritablement sur ses genoux cette balle et elle finit au fond des filets. 34e minute, déconcentration, encore une des défenseurs sénégalais. Nagamoto dans la surface trouve Takashi Inoui qui frappe de l'intérieur du pied droit, petit filet imparable, un partout. C'est le score à la mi-temps. Le Sénégal va reprendre l'avantage à la 71e minute, un petit peu contre le cours du jeu. Youssouf Sabali, encore lui, le bordelais, sans doute le meilleur sénégalais ce soir, centre pour Moussa Wagé, 19 ans à peine, un des plus jeunes buteurs africains de l'histoire de la Coupe du Monde, peut-être même le plus jeune. Il arrive pleine balle pour transpercer Kawashima, donc 2-1. 7 minutes plus tard, nouvelle absence sénégalaise, Khadim Diaye, le gardien, se trouve véritablement sur une sortie qu'il n'avait pas besoin de faire. Il du coup perturbe ses défenseurs qui sont bien statique sur la récupération du ballon des Japonais au deuxième poteau et un petit peu comme à la parade, le centre pour Keisuke Honda qui reprend à bout portant. 2-2, score final. Je vous propose l'analyse complète d'abord du sélectionneur Aliou Cissé.
Bah c'est sûr, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, c'est pas la grande équipe du Sénégal qu'on a vu, incontestablement. Il faut qu'on le souligne. Mais malgré ça, tu perds pas le match. Tu obtiens quand même un point en n'étant pas vraiment très bien. Et tu arrives quand même à deux reprises à prendre le dessus sur l'adversaire. Bon, après, comme je dis, il nous reste encore un troisième match. On savait que dans cette poule-là, il fallait batailler. J'ai toujours dit, les gens ont beaucoup sous-estimé cette équipe japonaise. Pas moi. Donc, il nous reste un troisième match. Il va falloir se préparer pour aller le jouer et essayer de faire un bon résultat.
C'est un peu rageant, le sentiment dans le vestiaire quand vous retrouvez vos joueurs ?
Non, pas du tout. Je crois que un petit peu de déception, mais il faut garder quand même un peu d'humilité et, comme je l'ai dit, de ne pas sous-estimer cette équipe japonaise. Aujourd'hui, bien sûr, il y a la frustration parce que la physionomie du match fait que le Sénégal peut, en n'étant pas super bien dans ce match-là, emporter les trois points. Mais je crois que le Japon a très bien joué. Le Japon a tenu tête au Sénégal et que le partage des points, à la rigueur, j'ai envie de dire que ce n'est pas si mal que ça.
Alors, pas si mal, c'est un peu aussi le sentiment des joueurs, Olivier. On oscille entre déception et satisfaction.
Oui, à l'image, vous allez l'entendre tout de suite, de Kalidou Koulibaly, le défenseur central napolitain, lucide en zone d'interview peu de temps après le match.
Un peu déçu, mais bon, il faut regarder aussi la physionomie du match. Je pense que les Japonais ont aussi des occasions, mais c'est un bon nul, même si on a ouvert deux fois le score. C'est dommage qu'on n'ait pas pu garder le but inviolé ce soir. Je pense qu'il reste un match très important contre la Colombie, qu'on sait que ça va être difficile. Tous les matchs à la Coupe du Monde sont difficiles. On voit des grandes équipes qui sont aussi en difficulté. Donc nous, il faut qu'on continue à travailler et essayer de gagner ce troisième match pour se qualifier.
Attention donc pour ce troisième match des Sénégalais face à la Colombie, parce que les Colombiens, Olivier, ont été superbes pour éliminer la Pologne tout à l'heure 3-0.
Oui, la Pologne éliminée, hein. 2 matchs, 2 défaites, 0 point pour Lewandowski et ses coéquipiers. Les Colombiens sont à une longueur, donc des Japonais et des Sénégalais. Donc tout est possible, hein. Dans ce groupe H, on le pressentait dès le tirage au sort. C'est un match à 3 qui aura lieu jeudi. Important donc que tout le groupe reste mobilisé, nous dit le défenseur, remplaçant Lamine Gassama.
J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'envie et de détermination de la part de tous les joueurs, de ceux qui ont débuté et de ceux qui sont rentrés en jeu. Maintenant, c'est vrai que tout n'a pas été parfait, donc il va falloir revoir le match pour voir ce qui a été moins bien fait, pour essayer de corriger et être plus performant contre la Colombie. On a mené 2 fois au score, donc sur la fin, on a peut-être cru que c'était acquis. Et le regret qu'on a aujourd'hui, c'est que nous avons 4 points comme les Japonais et que derrière, ça peut pousser et que ça va être une lutte infernale jusqu'à la fin.
Oh oui, une lutte annoncée et certaine face aux Colombiens, Falcao, James Rodriguez, Cuadrado, ils sont lancés et il va falloir faire face. Le milieu de terrain de Wolverhampton, Alfred Ndiaye.
Ça va être un très gros match contre la Colombie, on sait que c'est une très bonne équipe, qui a un peu notre style de jeu d'ailleurs, une équipe très physique qui va vite de l'avant. Et on sait qu'on ne doit pas perdre ce match, on en est conscient, voilà, on va tout faire pour se qualifier et on est en balatage favorable par rapport au classement, il va falloir tout donner sur ce match pour se qualifier. Là on a un objectif commun, c'est d'aller loin dans cette compétition, de rendre fier les Sénégalais et je pense que tout le monde a pris conscience de ça, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, parce qu'une Coupe du Monde ça se gagne surtout avec les remplaçants, si les remplaçants foutent la merde, bah tu vas nulle part, qu'on est dans le bon état d'esprit.
Il les cache, Alfred Ndiaye. Ils peuvent se contenter d'un nul, hein. Mais on sait que c'est pas tout à fait ce qu'il faut jouer. Il faudra viser la victoire. Rendez-vous est pris jeudi 14h, temps universel, Sénégal, Colombie. On sera à Samara avec Christophe Jousset et David Kalfa, pour voir si, eh bien, les Sénégalais peuvent continuer à voir plus loin et à rêver.
Merci beaucoup Olivier Pron, rendez-vous donc jeudi pour ce match, vous étiez ce soir en direct d'Ekaterinbourg. Si rien n'est donc réglé dans ce groupe H, le minuscule suspense préservé dans le groupe E, lui s'est définitivement envolé. Belgique et Angleterre seront bien les conviés de cette poule en huitième de finale. Les Diables Rouges avaient fait ce qu'il fallait hier en disposant facilement de la Tunisie 5-2, et cet après-midi les Trois Lions ont mangé tout cru une pauvre équipe panaméenne laminée 6-1. Celui qui s'est le plus régalé, c'est Harry Kane, auteur d'un triplé dont 2 buts sur pénalty, le capitaine qui devient du coup le nouveau meilleur buteur du mondial avec 5 réalisations. Et même s'il s'est resté humble, il était sur un petit nuage en quittant le stade.
Honnêtement, je me sens vraiment très bien. Quand vous sortez d'un match aussi accompli en marquant autant de buts et en se qualifiant pour les huitièmes de finale comme ça, c'est fantastique. Il faut juste profiter. J'ai marqué 3 buts, mais je dois remercier toute l'équipe pour ça. Alors oui, je suis pour l'instant meilleur buteur, mais la compétition est longue, avec tous les meilleurs joueurs du monde qui sont rassemblés ici, qui font des choses extraordinaires. Donc c'est flatteur, mais mon premier objectif, c'est surtout d'aider l'équipe. J'espère que je pourrai marquer encore pour mettre l'Angleterre dans les meilleures conditions.
Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, qui se battra donc en duel avec les Belges pour la première place du groupe à Kaliningrad, avec une égalité parfaite au coup d'envoi. Même nombre de points, même nombre de buts marqués et même nombre de buts encaissés. Si les deux équipes devaient se séparer sur un nul, eh bien le départage se ferait au nombre de cartons jaunes pris dans chaque camp depuis le début de la compétition. De son côté, la Tunisie affrontera Panama pour l'honneur. Les Tunisiens hors du coup donc, comme l'est désormais toute l'Afrique du Nord, puisque l'Égypte et le Maroc avaient déjà été écartés respectivement mardi et mercredi. Les Marocains vont donc faire leurs adieux à cette édition 2018 en tâchant quand même de sortir la tête haute. Pas simple quand on sait que c'est l'Espagne qui les attend à Kaliningrad. Bonsoir Christophe Jousset.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Vous êtes dans l'enclave russe au bord de la Baltique. Vous avez assisté aux conférences de presse. Manifestement, la déception de la défaite contre le Portugal n'est pas passée.
Oui, en tout cas, on a vu arriver Hervé Renard avec les mâchoires serrées et le visage fermé. Il n'a pas digéré l'arbitrage du match perdu face au Portugal. Le sélectionneur du Maroc l'a répété, c'est une injustice énorme pour lui et il espère que ses joueurs, demain, ressentiront encore cette frustration au moment de rencontrer les Espagnols.
J'espère que ce qu'on a subi va nous donner un sentiment de se sublimer encore plus. C'est sur ce ressort que je compte bien sûr agir, en espérant que tout le monde soit dans les mêmes capacités psychologiques que lors du début de match contre le Portugal. Et on va voir si je réussis ou si je ne réussis pas.
Alors du côté de l'Espagne, on vise la victoire pour finir en tête de ce groupe B. L'Espagne qui est candidate au titre et qui est évidemment sur le papier très supérieure à son adversaire. C'est justement la perspective d'affronter une grande équipe qui devrait pousser les Lions de l'Atlas, déjà éliminés, à chercher l'exploit et aussi peut-être la volonté de faire plaisir aux très nombreux supporters marocains présents en Russie. Younes Belhanda l'a dit à Farid Achach, le milieu offensif de Galatasaray.
On a montré de quoi on était capable, même si on ne gagne pas, mais... Bon, il y a encore un match pour redoser notre blason et montrer que le Maroc n'était pas là que figurant.
Même si on sait qu'on va partir, on a quand même envie de les jouer à fond ce match où c'est compliqué pour se remettre à l'endroit.
Bien sûr, c'est un match de Coupe du Monde. La plupart d'entre nous, ben, on va en faire qu'une de Coupe du Monde. Et voilà, il faut sortir la tête haute. On doit aussi remercier tous nos supporters qui sont venus. Ils étaient là en nombre. Ils sont venus, ils ont fait le déplacement du Maroc. Pour la plupart, on est revenus très modestes. Donc on leur doit au moins d'afficher le meilleur de nous-mêmes. C'est un spectacle pour eux qui sont venus au stade, pour ceux qui nous suivent devant leur télé, à nous de sortir la tête haute de cette Coupe du Monde.
Alors c'est très étonnant pour deux pays qui sont voisins, mais cette Espagne-Maroc, Christophe, ne sera que le troisième face-à-face de l'histoire entre les deux pays.
Oui, et c'est le premier face-à-face depuis fort longtemps. En fait, les deux précédentes confrontations ont eu lieu en 1961, à quelques jours d'intervalle. C'était les barrages pour aller à la Coupe du Monde 1962 au Chili. Barrage en aller-retour. L'Espagne avait gagné les deux manches, 1-0 à Casablanca, 3-2 à Madrid, au Santiago Bernabéu, avec des buts marqués ce jour-là par des légendes du foot, Ben Barek côté marocain et Di Stefano côté espagnol. C'était une époque où l'Afrique n'avait aucune place garantie en phase finale de la Coupe du Monde.
Deux pays de football, deux pays voisins donc, mais qui ont énormément de liens.
Oui, des liens historiques. D'abord, on sait que l'Espagne a colonisé une partie du Maroc, qu'il y a encore aujourd'hui des enclaves espagnoles au Maroc. Et concernant le foot, il suffit de se promener dans le pays pour voir à quel point les gens vibrent pour l'Espagne. Il y a des maillots du Real ou du Barça un peu partout. Les noms des cafés évoquent le foot espagnol aussi, le Real Café, le Barcelona. Et ce phénomène est particulièrement sensible dans le nord du pays, à Tétouan, à Chaouen, à Tanger bien sûr, qui est juste en face de l'Espagne. Il n'y a que 14 kilomètres à faire à travers le détroit de Gibraltar. Walid Regragui sait de quoi il parle quand il évoque les liens Espagne-Maroc. L'ancien international marocain, finaliste de la CAN 2004, a joué en Liga au Racing Santander. Il se réjouit de suivre ce match de Coupe du Monde.
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est proche déjà et il y a beaucoup de Marocains qui suivent la Liga et particulièrement le Barça et le Real, donc ils connaissent parfaitement les joueurs de l'équipe d'Espagne. Donc oui, ça va être un match particulier. On sait qu'aujourd'hui l'Espagne, c'est pour moi une des meilleures équipes au monde, la favorite face à nous.
Alors il y a quelques semaines, Christophe, nous étions en reportage au Maroc et nous avons croisé l'Espagnol Sergio Fernandez qui nous parlait de cette proximité entre les deux pays. Il nous disait « J'ai moi-même grandi en Espagne avec un garçon dont les parents sont marocains et on est comme des frères ». Sergio Fernandez, c'est aussi un journaliste. Il travaille pour Marca, le quotidien sportif madrilène. Et à ce titre, nous lui avons posé cette question. Quel est pour vous le meilleur joueur marocain à avoir évolué en Liga ? Réponse sans hésitation.
Naïbet. Naïbet, pour moi, il n'a pas été seulement le meilleur défenseur central de Liga, il a été le meilleur défenseur central du monde. C'était un joueur élégant, dur, rapide, intelligent. Pour moi, à cette époque, qui était celle des Galactiques au Real Madrid avec Beckham, Raoul, Zidane, il aurait été titulaire indiscutable dans cette équipe. Bon, le Real ne l'a jamais fait signer, mais pour moi, c'est un joueur historique.
Nourdine Naïbet, plus de 200 matchs avec le Deportivo La Corogne, champion d'Espagne en 2000, vainqueur de la Coupe d'Espagne un peu plus tard. Ce grand joueur marocain, on l'a rencontré aussi, se souvient de ses 8 années en Liga avec un grand sourire.
Ouais, on parle de Nourdine, ex-joueur. C'est spécial normalement. Bon, beaucoup de choses, mais normal sur le plan travail, c'est les championnats que j'ai gagnés normalement avec La Corogne. Sur la vie, c'est l'adaptation, mon adaptation avec les gens là-bas. C'est comme on dit normalement, c'est la deuxième famille. J'ai laissé beaucoup d'amis là-bas. Vraiment, c'est une belle expérience pour moi.
Nordi Naïbet qui a fait des petits, Christophe, quand on prend la liste des 23 Marocains dans cette Coupe du Monde, on trouve 6 joueurs qui évoluaient cette saison en Liga, notamment le latéral Achraf Hakimi qui est au Real Madrid et qui serait sans doute l'un des plus heureux si jamais demain le Maroc venait à prendre au moins un point contre l'Espagne.
C'est tout le mal qu'on souhaite au Lion de l'Atlas. Merci beaucoup Christophe Jousset, Espagne-Maroc, 18h temps universel avec Farid Achache à vos côtés et simultanément à Saransk, Iran-Portugal. Autre équipe a essayé de s'en aller la tête haute après 2 défaites, l'Égypte, la sélection suivie de près par Frédéric Suto. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Vous êtes à Volgograd, c'est là que les Égyptiens vont jouer demain leur dernier match de poule face à l'Arabie Saoudite. Malheureusement, même un succès sera insuffisant pour sortir du groupe.
Oui, c'est cette équipe d'Égypte hein, qui est tombée de haut dans ce mondial. Autant la défaite face à l'Uruguay 1-0 était assez logique au regard du potentiel de l'adversaire, hein, Luis Suarez, Edinson Cavani. Il a énormément d'expérience chez les Uruguayens qui avaient fini par trouver la faille en toute fin de match à la 89e minute, but de José Jiménez. Autant, c'est vrai, il y a beaucoup de regrets par rapport au deuxième match, celui de mardi dernier à Saint-Pétersbourg face à la Russie, le pays organisateur. Mohamed Salah, qui n'avait pas pu jouer le premier match, insuffisamment remis de sa blessure à l'épaule, était de retour face aux Russes. On en attendait monts et merveilles hein, de l'attaquant de Liverpool. Il n'a pas été loin d'ouvrir le score juste avant la mi-temps d'une frappe en pivot. Mais ensuite, en seconde période, Christophe, les Égyptiens ont littéralement sombré. Ahmed Fatih, capitaine, a marqué contre son camp. L'équipe s'est alors écroulée. Les Égyptiens se sont retrouvés menés 3-0 face à une Russie déchaînée. Mohamed Salah a bien sauvé l'honneur sur pénalty, mais cela n'a rien changé avec 2 défaites. Effectivement, comme l'Arabie Saoudite, adversaire de demain, avec 2 défaites dans ce groupe A. Les Pharaons vont affronter les Saoudiens pour l'honneur, alors que dans le même temps, ce sera à Samara, et bien Uruguay et Russie vont se disputer la première place du groupe.
Alors, il y a tout de même quelques enjeux pour les Égyptiens. Le premier, c'est enfin de gagner un match de Coupe du Monde.
Oui, ce serait une première. En effet, l'Égypte qui participe ici en Russie à sa 3e Coupe du Monde. La première, c'était en 1934. Puis il y a eu 1990 avec 2 bons matchs nuls là face aux Pays-Bas et l'Irlande, avec une courte défaite également face à l'Angleterre 1-0, mais jamais de victoire. Hein, il n'y en avait pas eu en 1934 non plus. Donc là, face aux Saoudiens, il y a assurément une belle occasion à saisir. Hector Cooper, le sélectionneur argentin des Pharaons.
Pour nous, bien sûr, c'est un match très important, tout particulièrement parce que nous voulons finir ce mondial avec une bonne note. Nous avons bien récupéré de notre match précédent contre la Russie. L'équipe s'est bien préparée pour cette dernière sortie. Une victoire serait la première de l'Égypte en Coupe du Monde, même si nous sommes déjà éliminés. Donc, ce serait historique pour le pays. Nous l'avons en tête. Nous allons tout faire pour gagner cette rencontre.
L'Égypte gagne un partido en una Copa del Mundo, también sería algo.
Autre enjeu, Frédéric, si Hector Cooper, qu'on vient d'entendre, décide d'aligner Essam El Haddari dans les buts, il deviendra alors le joueur le plus âgé à avoir participé à un match de phase finale de la Coupe du Monde.
Oui, ce n'est pas rien, hein. Essam El Haddari qui a fêté ses 45 ans en janvier dernier. Il compte 159 sélections, une histoire, une carrière inouïe. Sa première sélection, elle remonte à 1996. Si Hector Cooper l'aligne dans les buts face aux Saoudiens, il deviendra effectivement le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde, le record étant détenu depuis le dernier mondial par le gardien colombien Farid Mondragon, qui avait 43 ans et 3 jours quand il était entré en jeu en 2014 en toute fin de match face au Japon. Alors un record peut-être, le seul hic c'est que pour les 2 premiers matchs, Hector Cooper a fait confiance non pas à Essam El Haddari, sinon il aurait déjà ce record, mais à Mohamed El Shenawy, le gardien d'Al Ahly, et que Mohamed El Shenawy a été très bon, notamment face aux Uruguayens. Alors Essam El Haddari dans les buts ou pas face aux Saoudiens, écoutez ce qu'en dit l'intéressé.
Bien sûr, je serais très fier si je devais jouer ce match contre l'Arabie Saoudite. Mais je n'en sais rien, ce n'est pas certain, la décision revient au sélectionneur. Tout le monde a envie de jouer. Si je dois jouer, si je dois battre ce record, ce serait incroyable pour moi, Essam El Haddari, mais pas seulement. Ce serait aussi une énorme satisfaction et un record pour tout le peuple égyptien.
Sam El Hadary et l'Égypte pour une première victoire peut-être en Coupe du Monde. Christophe, Égypte, Arabie Saoudite, nous y serons ce lundi, 14h, temps universel, à Volgograd.
Rendez-vous est pris, Frédéric Suto. Bonne fin de soirée. Allez, des nouvelles de l'équipe de France maintenant. Les tricolores à 48 heures de leur ultime match de poule contre le Danemark à Moscou. Journée presque à l'abri des regards indiscrets au camp de base d'Istra, entraînement à huis clos, mais tout de même deux points presse, dont celui d'un certain Paul Pogba, et c'est peu dire que les journalistes étaient contents de le voir, en particulier notre homme au cœur des Bleus, Antoine Grenier. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
4 ans qu'il ne s'était pas présenté de lui-même en conférence de presse, le show Paul Pogba a eu lieu devant les journalistes français aujourd'hui à Istra.
Mais imaginez, mis à part une conférence de presse assurée en tant que capitaine en 2016 et quelques incursions en zone mixte après les matchs de ce mondial russe, la parole du milieu mancunien s'était faite rare. Alors entre-temps, des critiques avaient vu le jour sur le niveau de jeu, l'implication, voire la motivation du meilleur jeune de la Coupe du Monde 2014. Alors l'annonce hier soir de la présence de Pogba en conférence de presse, voilà qui a suscité de l'enthousiasme, en tout cas de la curiosité dans les rangs des journalistes. Et d'entrée, Pogba, connu pour son caractère excentrique, a attaqué fort.
Je vous aime tellement. Oh, vous m'avez manqué. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop bavard. Donc, non, bah, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Juste pour moi, tout ça, que pour moi. Ça fait du bien.
Non, on est en droit de ne pas le croire. Pas sûr que les journalistes lui aient vraiment manqué. Mais voilà qui entretient encore un peu l'image d'un Paul Pogba plein d'assurance, de confiance, qui assume complètement, en tout cas en apparence, d'être lui-même, lui que ses coéquipiers surnomment la pioche.
En fait, je suis moi, en fait. Je ne joue pas un rôle. Toujours été moi, j'ai toujours aimé rigoler, sourire, danser. Et le plus important, jouer au foot. Je m'épanouis et je prends du plaisir. On joue une Coupe du Monde, j'ai déjà dit, c'est un rêve de gosse. Voilà, faut juste être toi-même, prendre du plaisir et comme j'ai dit, ça peut être ma dernière, donc faut profiter au max.
Paul Pogba, c'est une personnalité à part dans le groupe France et un joueur en forme, surtout depuis le début de ce mondial, Antoine.
Un but provoqué face à l'Australie, une passe à Giroud que l'attaquant de Chelsea a transformé en offrande pour Kylian Mbappé contre le Pérou. Bref, fini les doutes qui avaient entouré sa prestation contre l'Italie. En 3 matchs, États-Unis, Australie et Pérou, Paul Pogba a rendu à Didier Deschamps la confiance que le sélectionneur lui a toujours donnée. Certes, il l'a fait sortir sous les sifflets en fin de match contre Nice en préparation, sans doute pour le piquer un peu, mais Paul Pogba a préféré relativiser. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il s'est présenté devant la presse, c'est parce qu'il sait, et le staff de l'équipe de France avec lui, que son début de mondial est réussi. Lui qui se plaignait dans une interview avant la Coupe du Monde d'un manque de patron chez les Bleus, montre qu'il faut compter sur lui maintenant pour jouer ce rôle en montant par exemple à l'assaut pour défendre Antoine Griezmann un peu plus en difficulté que lui.
Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué le dernier match que c'est pas le même Grisou. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon Grisou. Vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas mon Grisou. On a encore des matchs, on est qualifié pour les 8e, pensez à ça, au boulot qu'il fait. On a fait un boulot défensif intense. Vous avez vu contre le Pérou, il était là, on revenait, on était compact. Donc Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, touchez pas mon Grisou.
Alors il faut bien le dire, Antoine, cette prestation en conférence de presse de Paul Pogba a totalement éclipsé le passage de Corentin Tolisso juste avant lui, le milieu du Bayern, qui fera pourtant partie de ceux qui ont une chance de jouer face au Danemark mardi.
La qualification pour les 8e est en poche, alors forcément l'idée de faire tourner pour reposer les cadres est tentante. Ça ressemble d'ailleurs au scénario de 98 où après les 2 victoires contre l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, les Français s'étaient présentés avec une équipe bis face, face au Danemark, et ils l'avaient emporté 2-1. C'était d'ailleurs le 24 juin, 20e anniversaire aujourd'hui. Alors Corentin Tolisso, comme les autres remplaçants, devrait avoir une occasion certainement unique de se montrer dans cette Coupe du Monde.
On a vu d'ailleurs que l'enjeu a évolué pour beaucoup de joueurs.
Dimanche dernier, l'opposition face au moins de 19 ans du Spartak Moscou s'était soldée sur un 3-2 difficile et avait laissé l'impression de joueurs français un peu hors sujet, mis à part Olivier Giroud. Les jeunes spartakistes sont revenus vendredi et là ils ont pris 11-0 avec des triplés de Thauvin et Dembélé et 4 passes décisives de Fekir. Corentin Tolisso qui a disputé les 2 matchs et l'ancien milieu lyonnais a été franchement bon, impliqué, solide lors du 2e. Lui qui avait débuté cette Coupe du Monde comme titulaire contre l'Australie avant de céder sa place à Blaise Matuidi. Tolisso, conscient de ses manques à Kazan et désireux du coup de se rattraper.
C'était un premier match de Coupe du Monde pour moi et voilà, peut-être que je l'ai mal abordé, peut-être que ma préparation n'était pas bonne.
J'ai pu regarder le match que j'ai pu faire, voir ce qui n'a pas été. Et voilà, j'ai remarqué, c'était surtout techniquement, parce que voilà, j'avais beaucoup d'envie. Et il faut que voilà, je joue libéré, que je joue comme j'ai joué les matchs de préparation ou les matchs que j'ai pu faire en équipe de France. Et que je joue mon football avec beaucoup d'envie et voilà, faire la meilleure performance possible. Après, c'est ce que j'ai envie tout le temps, mais sur le match de l'Australie, c'est vrai que ça a été compliqué. Et je sais ce qu'il ne faut pas refaire et surtout être peut-être plus concentré.
Tolisso et les Bleus tournaient donc vers mardi et cette confrontation face au Danemark, ce sera au stade Loujniki, l'enceinte de 88 000 places que les Français et les Danois découvriront et où ils prendront leur marque en n'oubliant pas, même si c'est encore loin, que c'est là que se jouera la finale le 15 juillet.
Antoine Grenier à Istra, Danemark-France, 14h TU ce mardi avec Australie-Pérou en parallèle à Sochi. Voilà pour ce point complet sur la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la compétition est aussi à suivre sur Internet et les réseaux sociaux sur africfoot.rfi.fr. Les portraits, les interviews, les choses vues en Russie sur les équipes africaines par David Kalfa et Farid Achache. La page Facebook Mondial Sport avec les vidéos de nos envoyés spéciaux pour être au plus près des sites et vivre dans l'ambiance du mondial. Et le compte Twitter RFI Sport. Vous êtes plus de 10 000 à nous avoir rejoints. Surtout continuez comme ça et faites passer le mot.
Mondial Sport, Christophe Guérémzian.
Petit à petit, Tony Yoka gagne ses galons de challenger des plus grosses pointures de la boxe. Le français champion olympique à Rio est remonté hier soir sur le ring pour le 5e combat professionnel de sa carrière. Une étape de plus vers la conquête un jour d'un titre de champion du monde. Et cela dans un contexte compliqué pour lui. Cette menace de suspension par l'agence française de lutte contre le dopage pour 3 défauts de localisation entre juillet 2016 et juillet 2017. Si ses précédents adversaires faisaient parfois figure de sparring partner, celui de ce samedi, le britannique Dave Allen valait bien plus que son physique ventripotent le laissait croire. Mais Yoka a pris le dessus. Victoire par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise sous les yeux de Jean-Clément Martin Borella au reportage au Palais des Sports de Paris.
Mesdames, Messieurs, dans le coin bleu, l'artiste Tony Yoka.
Il était attendu par un public bouillant. Capuche sur la tête et regard noir, Tony Yoka pénètre sur le ring avec une détermination affichée. Loin des affaires administratives qui risquent de l'éloigner des salles plusieurs mois, le boxeur français ne pense qu'à gagner. Et face au courageux mais très lent David Allen, il comprend qu'il doit travailler avec une grande patience.
Il fallait lui faire aussi mal que possible. On savait que sur 10 rounds, voilà, il allait avoir du mal à toutes les prendre. Et qu'au bout d'un moment, je verrais une opportunité. Il ne fallait pas non plus se précipiter. Il fallait en garder un petit peu sous le pied.
Durant 9 rounds, David Allen encaisse. Surnommé le rhinocéros blanc, le Britannique au menton de béton fait office de sac de sable. 149 coups reçus contre seulement 26 donnés. Et dans le 10e, Tony Yoka décide d'accélérer. L'arène s'embrase.
Déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise et toujours invaincu, l'artiste Tony Yoka.
Il tenait d'ailleurs à faire un petit cadeau au public.
Gagner à la limite, c'est vrai que c'est bien, mais je sais très bien que le public affectionne particulièrement les victoires avant. Donc voilà, je tenais à le faire pour moi et pour eux surtout.
La supériorité de Tony Yoka a d'ailleurs été reconnue avec élégance par son adversaire. Chambreur la veille lors de la pesée, David Allen s'est mué en un admirateur conquis à la fin du combat.
Il a beaucoup d'expérience, il est très bon, costaud, fort, puissant et rapide. J'avais beaucoup de respect pour Tony avant, je ne suis pas surpris, c'est un bon combattant, il peut avoir un grand avenir. Tout est réuni pour qu'il devienne un grand champion.
Quant au promoteur de Tony Yoka, le Suisse Richard Schaeffer, qui a façonné les carrières des plus grands, il voit en Tony la fierté et le renouveau de la boxe française.
Il a vraiment essayé de combattre avec son fort intérieur. Donc je pense que c'était une superbe soirée de boxe. Les spectateurs sortent de là très heureux. C'est fabuleux pour la boxe. Et croyez-moi, la boxe en France est définitivement de retour.
Si Yoka a l'étoffe d'un champion, sa prochaine saison de boxeur professionnel est dorénavant entre les mains de l'agence antidopage française. Le verdict sera donné le 4 juillet.
Jean-Clément Martin Borella, dernière info avant de se séparer, le Grand Prix de France de Formule 1 de retour au calendrier de la saison cette année avec la victoire du Britannique Lewis Hamilton. Pole position, 3e succès de la saison et retour aux commandes du championnat du monde devant l'Allemand Sébastien Vettel. Hamilton qui possède 14 points d'avance au classement de ce championnat du monde des pilotes. Voilà, Mondial Sport se referme pour ce soir. Merci à Valentin Vaner et Laurent Philippot pour la réalisation. Dans un instant, 24 heures en France avec Loïc Bussière. Très bonne soirée à tous.